Bonjour et bienvenue sur RVE. Vous êtes avec Annick dans Culturellement Vôtre. Aujourd'hui, je suis accompagnée de monsieur Michel Charron, qui fait partie de l'association La Mémoire de Chevreuse. Et monsieur Charron, là, vous vous occupez dans cette association de toute la partie historique.
Oui, c'est ça. En particulier, oui.
En particulier. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de deux petites églises très sympathiques dans cette vallée de Chevreuse. L'église de Saint-Forget et l'église de Chevreuse, qui sont des églises que vous connaissez très bien de par leur architecture, leur histoire. Et j'aimerais qu'on développe un petit peu, en fait, l'histoire et l'architecture de ces églises du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, en commençant par l'église de Saint-Forget. Donc, elle date du XIIe siècle, c'est ça?
Oui, on peut dire ça.
Bon, alors.
Voilà. On peut dire ça.
Alors, dites-nous tout.
Ouais, non. On sait qu'il y avait un centre religieux déjà bien avant, dès le Xe siècle, parce que on est dans une région où il y a énormément de sources dites sacrées ou miraculeuses. Et il y avait un lieu de culte, on en a des traces, par l'écrit, mais bon, bref. L'église, en gros, sa construction s'étale entre le XIe, XIIe, XIIIe siècle. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est bien une église et non pas une chapelle.
Alors, pour moi, une chapelle, c'est une petite église, mais qui n'est pas en forme de croix latine et qui est toute petite.
Absolument, mais celle de Saint-Forget est toute petite, mais c'est bien une église. Et comment on détermine ça? On déterminait la taille d'une église par la longueur des poutres. C'est-à-dire qu'on savait qu'il fallait à peu près tant de mètres carrés par habitant religieux, et donc on cherchait des poutres qui permettaient de construire, voilà. Bon, donc ça c'est le petit côté anecdotique. L'église de Saint-Forget, elle a la particularité d'avoir deux saints, elle porte deux noms, Saint-Gilles et Saint-Féréol.
D'accord.
Alors, Saint-Gilles, abbé de l'abbaye de Saint-Gilles-du-Gard, mais Saint-Féréol, on en trouve deux dans le calendrier. Mmh. Alors, inutile de dire qu'on ne sait pas quel était le bon. Hein, il y en avait un qui avait évangélisé la Côte d'Azur et un autre qui avait fait plutôt les montagnes vers la Savoie. Bon, enfin bref, on a deux patrons. Cette petite église, elle a une particularité, c'est que pendant plusieurs siècles, elle dépendait de la cure de Chevreuse, les curés se battant entre eux. Après, elle va être attachée à l'église de Dampierre en Yvelines. Mmh. Et pendant les siècles, c'est le ping-pong. Bon, l'intérêt de cette petite église, c'est déjà son emplacement. On trouve de moins en moins de cimetières qui encerclent les petites églises, pour des raisons sanitaires, mais Saint-Forget a conservé ce très joli cimetière qui vaut la peine d'être visité. Et cette petite église qui vient d'être restaurée tout récemment, avec une belle toiture, qui a retrouvé sa cloche d'origine. Elle est très visitée, malheureusement pas souvent ouverte, mais très visitée sur demande pour des fresques extraordinaires qui ont été découvertes il y a une vingtaine d'années, 15 ans exactement.
Alors, avant de revenir sur les fresques magnifiques de l'église de Saint-Forget, moi j'aimerais savoir pourquoi elle a deux patrons cette église. Parce qu'on sait pourquoi.
Non.
On ne sait pas,
non,
comme ça.
Non.
Alors, est-ce
que
dans les textes, on retrouve systématiquement l'église Saint-Gilles, Saint-Féréol ou que Saint-Gilles, que Saint-Féréol? Comment ça s'organise au niveau des textes?
Les textes les plus anciens, on trouve Saint-Féréol.
D'accord.
Saint-Féréol. Bon. Et Saint-Gilles apparaît comme ça.
D'accord. Okay.
Mais déterminer, dire quel était le premier, moi personnellement, je pense que c'est Saint-Féréol,
oui.
C'est le plus ancien.
Oui.
Bon, on n'a aucune certitude, c'est ça le problème dans ce genre de bâtiment.
Oui.
On a très peu d'écrits.
Oui.
Sauf à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe, là on commence à avoir des sources. Et les informations sont retranscrites par un célèbre abbé historien qu'ils appelaient l'abbé Leboeuf, qui a écumé toute la France, toute l'île de France quasiment aussi, et qui a identifié tout ce qu'il pouvait glaner comme information dans les villages. Il y a beaucoup de transmissions orales.
Mmh. D'accord. Alors, au niveau architectural,
oui.
C'est une église de style roman, gothique.
Elle est romane.
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 Mais elle a été remaniée avec les siècles.
Oui, toujours.
Alors, si elle a été remaniée avec les siècles, si elle date du XIIe siècle, on a la transition entre le roman et le gothique.
Oui,
donc
oui.
Là, le roman a été privilégié. Mais au cours des restaurations, pourquoi ils ont conservé dans la restauration le style roman, c'est ça?
C'est un peu difficile à Saint-Forgé, en particulier sur Chevreuse, dont on parlera plus tard.
Oui.
Là, on voit bien les différences de style. Mm-hmm. Saint-Forgé, ça ne c'est pas criant.
Ce
n'est pas criant. Il n'y a qu'une chose qui peut faire penser à l'époque romane. Elle a un chevet qui est en forme de proue de bateau.
Oui.
Bon. Ça, on pense qu'on peut le rattacher à la roman. Mais elle n'est pas typiquement d'une époque ou d'un style.
D'accord.
Non. Ça, on ne peut pas le dire. On le sait par la tradition, par l'histoire. Mm-hmm. Mais il n'y a pas d'éléments majeurs qui font penser au roman ou au gothique.
D'accord.
Bon, alors par contre, elle a été très fortement remaniée, c'est-à-dire c'est des églises qui n'avaient pas de, comment dire, les murailles étaient rarement en pierre nue. C'était la grande mode à partir du 17e, 18e de stucquer les...
Oui.
Bon, quitte à repeindre dessus des fausses pierres, mais le côté dénudé, on ne l'avait pas, on ne l'a plus à Saint-Forgé. On ne l'a plus du tout.
Dans ma petite connaissance des églises, les églises étaient très chargées au niveau décoratif, hein, beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, dans l'imagerie populaire, les églises du Moyen-Âge sont des églises sombres, c'est pas du tout le cas, hein, elles avaient beaucoup beaucoup de couleurs et c'est vraiment en polychromie. Est-ce que l'église de Saint-Forgé a gardé des traces de cette polychromie?
Non. Il n'y a plus du tout de traces de polychromie. Par contre, on a des traces au niveau de la fameuse fresque.
Voilà. D'accord.
Bon, okay. Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous dites quant aux façades qui étaient très décorées. Mais comme on pense à Chartres, on pense à Beauvais ou toutes ces églises où les façades étaient peintes.
Bon, même l'intérieur, je parle de l'intérieur
aussi. Oui,
hein,
l'intérieur, oui. Non, on n'a plus rien de l'époque Moyen-Âge. On n'a vraiment plus rien.
D'accord.
Et alors, il y a une chose quand même, c'est que les fenêtres de Saint-Forgé étaient à l'origine de petites fenêtres.
Tiens.
C'était des petites fenêtres plutôt qui ressemblaient assez fort à des meurtrières quasiment.
Comment ça s'explique ça?
Bon.
On ne sait pas.
Non, on ne sait pas. Par contre, on a bien l'évolution des fenêtres.
Oui.
Qui se sont brutalement agrandies. Moi, je pense que c'est à partir de la période de la Renaissance où les fenêtres se sont agrandies. L'église s'est éclairée parce que on le voit. D'ailleurs, comment on a pu. Si je vous parle d'une litre funéraire, ça vous dit quelque chose?
Oui,
bon,
tout à fait.
Alors, il y avait une litre funéraire.
Alors, peut-être pour nos auditeurs, la litre funéraire.
Alors, la litre funéraire, c'était un apanage, c'était un droit médiéval. Lorsque dans un village, il y avait un seigneur d'importance qui disparaissait, un seigneur qui avait une autorité, on peignait une bande qui devait faire.
Bandes noires
tout autour de l'église.
Oui.
Lorsqu'on a fait les recherches pour les fresques de Saint-Forgé, évidemment, on était plusieurs à chercher là-dedans. Il y a des historiens d'histoire de l'art et tout. Et sur la litre funéraire, bien souvent, on représentait les armoiries,
tout
le blason
de
du seigneur du lieu. Malheureusement, là, on l'a pas. Peut-être qu'un jour, on le retrouvera. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont agrandi les fenêtres, la litre a été coupée. Donc, on a encore un témoin qui montre ce qu'elle était. Mais voilà, ce sont les petites anecdotes. Peut-être qu'un jour, on retrouvera quelque chose.
Ouais, on espère. Alors, moi, ce que je vous propose, Monsieur Charron, on va parler des fresques de l'église de Saint-Forgé parce qu'elles sont magnifiques. Mais je vous propose d'en parler dans quelques instants.
Pas de problème.
À tout de suite. Monsieur Charron, Michel Charron, vous nous parliez de l'église Saint-Gilles, Saint-Féréol de Saint-Forgé. Beaucoup de saints là.
Ah oui, ah oui, oui. En général, deux saints valent mieux qu'un, mais là, on en a trois. Hein.
C'est ça. Et puis, il y a une magnifique fresque dans cette église. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un petit mot?
Alors ça, ça a été une récente découverte en une quinzaine d'années. Par le plus grand des hasards, la muraille s'est effritée.
Le stuc est tombé.
Et derrière, on a découvert par des petits trous qu'il y avait des couleurs. Alors, inutile de dire que la curiosité aidant, on a voulu en savoir plus. Et le stuc, on l'a descendu et on s'est aperçu qu'il y avait des couleurs, mais des personnages qui apparaissaient. Alors, tous piquetés. Mais le piquetage, au départ, on a pensé à la Révolution française, qui a fait beaucoup de dégâts en la matière. Et en fin de compte, non, c'était tout simplement qu'il devait en avoir assez de voir ces vieilles peintures qui étaient sur le mur. Il fallait bien accrocher l'enduit, donc on piquetait. Ça s'appelle bûcher. On bûchait les murs pour coller.
Pour coller
Pour coller, ben pour coller le nouveau stuc.
Ah, d'accord.
Okay. Masquer la fresque.
D'accord. Okay.
Donc les travaux de restauration. On a eu de la chance parce que pour une fois le gouvernement français a été très rapide à réagir. C'est-à-dire elles ont été très classées, très rapidement classées.
Elles ont été classées quand?
Oh, il y a une quinzaine d'années.
Donc ça veut dire que les fresques de l'église Saint-Forget sont classées.
Absolument.
Et l'église est classée?
Non, elle est inscrite au monument ou
à l'inventaire supplémentaire.
Donc l'intérêt de ce travail, qu'est une restauration a été tout de suite, une protection d'abord, une restauration, et on s'est aperçu que ça représentait un jugement dernier. Alors on connaît tous les jugements derniers.
Ouais.
Mais l'intérêt de celui-là, ce qui est un des éléments qui a permis une datation, c'est qu'on ne savait rien du tout de ce travail, c'est qu'on a une représentation du jugement dernier qui n'a pas encore assimilé les directives du Concile de Trente.
Alors, on vous rappelait la date du Concile de Trente?
Non, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Mais c'est un petit peu avant 1500. Et je m'en rappelle jamais. Bon, et bref. Et l'Église, par le Concile de Trente, obligeait ou commençait à imposer une imagerie officielle.
Oui, donc.
Une iconographie très officielle. Et à Saint-Forget, ce qui est très intéressant, c'est que le traitement du jugement dernier se fait comme une bande dessinée. C'est-à-dire, on commence par le ciel.
Mm-hmm.
Alors, les personnages, comme ça, il y a plus de 120 personnages. Et on descend par tranches pour arriver aux enfers. Très logique. Mais on retrouve une structure qui vient des temps quasiment païens. Par exemple, le Christ qui figure dans une mandorle, ici, là, dans une mandorle
alors,
en haut.
Monsieur Charon, voyez une petite image. Donc là, je suis en train de la regarder. Ah oui, le Christ en majesté, en fait.
Oui, mais donc il est dans une position qu'on connaissait dès l'Antiquité.
Oui.
La représentation de Jupiter est exactement la même que le Christ ici. Donc on a vraiment des souvenirs de l'Antiquité qui réapparaissent dans ces fresques. Et alors autour du Christ en gloire, dans sa mandorle, il a d'ailleurs les pieds qui reposent sur un globe terrestre et il est assis sur la voûte céleste.
Tout à fait.
Alors il y a plein de détails qui sont très très intéressants. On sait que la représentation d'un jugement dernier en bande horizontale, c'est Michel-Ange qui, lorsqu'il va travailler dans la chapelle Sixtine plus tard, va balayer toutes ces vieilles lunes. Il va dire, moi, les jugements derniers, classiquement en bande dessinée, de haut en bas, tout ça, et la chapelle Sixtine, il va faire partir tous ces personnages dans tous les sens. Nous, là, on est encore avant les décisions du Concile de Trente, je me répète.
Oui.
Et alors, ce qui est très amusant ici, c'est que la quantité de personnages très colorés. Alors, il y a eu une restauration qui a été faite par Roger Carly, qui était un restaurateur officiel des monuments historiques, qui a travaillé pendant plusieurs années dessus. Alors, pas en continu, mais parce que la restauration, c'était les peintures étaient extrêmement abîmées. Mais ce ne sont pas des peintures, par contre, ce sont des fresques.
Alors la différence,
la peinture, vous prenez votre muraille, vous peignez, vous dessinez, si c'est pas bon, vous effacez, vous.
D'accord.
Alors que la fresque, vous travaillez sur un enduit frais. Fresque, ça vient du fresco de l'italien.
D'accord.
C'est sur un enduit frais. Vous êtes obligé d'être extrêmement précis, vous tracez, mais une fois que l'enduit est sec, ça se pétrifie, c'est ce qui permet de retrouver des fresques murales à Pompéi.
D'accord.
Parce qu'elles se pétrifient, elles deviennent...
Elles s'effacent moins avec le temps.
Elles ne s'effacent pas du tout. D'accord. Ah non, vous gardez les coloris.
Et est-ce qu'on a daté, en fait, cette fresque?
Alors, la datation, elle a pu se faire grâce aux personnages qui sont dessus, par élimination. Bon,
d'accord.
Nous, on a fait des études sur les costumes qui sont présentés, sur la manière de représenter. Par exemple, il y a des détails, mais franchement, les auditeurs que ça peut intéresser, venez voir, venez écouter les explications sur place. Par exemple, on a la Vierge qui a une couronne, mais on est obligé de travailler sur l'étude des couronnes, c'est-à-dire la couronne de la Vierge, la Reine du Ciel, n'est pas du tout la même couronne qu'un personnage féminin qui est au centre.
C'est normal, puisque ce n'est pas la Vierge.
Oui, mais lorsqu'on est dessus, qu'on voit le détail, la Vierge, elle a une couronne avec des carreaux, et le personnage très, très important, ce personnage très
important,
voilà, c'est une couronne de duchesse.
Aha.
Donc ça, ce sont des éléments qui permettent de d'identifier les personnages.
Alors, est-ce que la couronne ducale qui est sur cette personne, oui. cette jeune femme là,
oui.
est-ce qu'on peut considérer que ce serait peut-être une duchesse de
Mais oui,
qui était représentée
et on l'a retrouvée.
Oh, c'est qui?
Et on l'a retrouvée. C'était Louise de Savoie.
Oh.
Alors donc ça c'est un élément qui permet de dater.
Oui.
Louise de Savoie n'était autre que la maman de François Ier. Et
fait.
On retrouve François Ier ailleurs.
D'accord.
Donc ça tourne autour de 1530, 1540 à peu près.
Hein,
la date précise on ne l'a pas. Mais avant d'en arriver là, on a pensé à Anne de Bretagne parce que ça forgeait. On n'était pas très loin du duché de Bretagne.
Oui,
hein.
Oui.
Montfort-l'Amaury, c'est pas loin.
Oui.
Et donc il y a tout un travail d'identification de ce que l'on avait.
Mmh. Est-ce qu'on retrouve Anne ou pas dedans?
Non, du tout. On retrouve Bayard, on retrouve mmh. Duguesclin, on retrouve François Ier, on retrouve Anne de Pisseleu, la première duchesse de Chevreuse et d'Étampes.
D'Étampes et surtout favorite
de François Ier. Voilà.
Hein.
Alors ça, c'est moi, je reçois énormément de chercheurs en histoire de l'art ou de visiteurs. Mais comment vous pouvez dire? Il y avait un principe que les anciens connaissaient très bien. Nous, on a perdu ça. C'est lorsqu'ils faisaient une représentation de personnages bibliques à la base ou des évangiles.
Oui.
Et qu'ils voulaient intégrer dans leur travail des contemporains, c'est ce qu'on appelle par similitude.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on prenait, je vais prendre un exemple, le roi Salomon. Il est connu comme le roi de justice.
Tout
vous connaissez l'histoire, il a séparé, enfin, pour retrouver le bébé, quelle était la maman. Bon, eh bien, il est toujours représenté, Salomon, avec la main droite, en avant le droit de justice.
Oui.
Eh bien là, vous avez un personnage qui est un roi. Alors, comment on identifie des rois? Par les couleurs aussi, il y aurait tellement de choses à dire.
Mm-hmm.
Bon, les rois à Saint-Forgeon, on en a plusieurs. On a le roi David, qui est Vidur Bibi, mais par similitude, on identifie Salomon avec François Ier.
Mm-hmm.
Donc, et voyons, on tourne autour. Alors, tout ça, ce sont des éléments. Après, il y a deux sœurs qui figurent, deux abbesses, on a pu les dater, ce sont des abbesses de Port-Royal des Champs.
De Port-Royal des Champs,
voilà.
Bien sûr.
Et
est-ce
donc,
qu'il y a Mère Angélique ou pas?
Non, c'était avant elle. C'est Jeanne de la Fin et une nièce.
D'accord.
Et donc, elles sont bien répertoriées dans le nécrologe de Port-Royal. Donc, on est parvenu à identifier énormément de personnages.
Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. Je ne connaissais pas, je vous avoue, les grilles de Saint-Forget. Donc maintenant, j'ai qu'une envie, c'est aller voir cette fraise.
Avec plaisir.
Fresque, pardon. Et essayer de découvrir ces personnages. Moi, j'aimerais qu'on fasse une petite pause. Et qu'après la pause, on enchaîne sur une autre église fabuleuse de la vallée de Chevreuse.
Oui.
Puisque c'est celle de
Chevreuse.
Chevreuse. À tout de suite. Nous voilà de retour dans Culturellement Vôtre avec Michel Charron. Monsieur Charron, vous nous avez parlé de l'église de Saint-Forget et sa magnifique fresque. Et maintenant, l'église de Chevreuse, Saint-Martin de Chevreuse. Plein de choses à dire sur cette église qui date, elle aussi, du 11e siècle,
si,
plus ancienne.
Oui, globalement, toutes les églises de la région ont une base 11e. 10e, 11e, 12e, on va pas mégoter sur le siècle, hein, parce qu'elles ont été remaniées. Mais alors l'église Saint-Martin de Chevreuse, je suis un petit peu chauvin,
mm-hmm.
c'est pour moi une des plus belles, c'est la plus belle église du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse.
Aha.
C'est la plus belle, pourquoi? À part son clocher.
Mm.
Le clocher est une erreur d'architecte, mais parce qu'elle a, c'est une église déjà qui va devenir par la suite église de duché, donc une certaine importance.
Mm-hmm.
Au point de vue architecture, elle est parfaitement en adéquation avec le château féodal de la Madeleine qui est au-dessus.
Oui.
Et les deux, on a vraiment une vision. Ce château qui domine la ville, qui protège ses habitants.
Mm-hmm.
Et alors, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, les deux églises de Chevreuse, dont Saint-Martin, parce que Saint-Martin est la seconde église de Chevreuse. Il y en avait une première qui se trouve, il y a encore les ruines en face.
Qui était où?
Qui est le prieuré Saint-Saturnin, juste en face à côté. Il était.
D'accord.
Qui maintenant est un centre culturel. Alors, l'église Saint-Martin de Chevreuse, elle a souffert au cours des siècles. Elle a eu des tas de soucis. D'ouragan, le clocher abattu, un clocher reconstruit. Dans les années 1960, la municipalité avait décidé de la raser complètement parce que elle avait beaucoup souffert. Et heureusement, il y a un petit curé qui s'est battu pour sauver son église. Et ça a été, tous les journaux français ont titré sur la sauvegarde de l'église, de la vieille église Saint-Martin. C'est vraiment une très belle église. Alors, elle a été remaniée au cours des âges. Hein. C'est-à-dire, au départ, il y avait la partie clocher, pour ceux qui viendront visiter la partie clocher qui est la plus ancienne. Bon, les collatéraux ont été rajoutés au fur et à mesure des siècles. Elle a une très belle dimension. Elle a une lumière qui est magnifique. C'est vraiment une église très belle. Encore plus belle depuis que les pierres ont été dégagées. Elle est complètement en meulière, avec des soubassements en grès. Le soubassement en grès, comme souvent les grands bâtiments, le grès est beaucoup plus résistant et on construit au-dessus en meulière. C'est une église qui a des couleurs selon le soleil. La pierre meulière est il y a énormément de minerais de fer dedans. Donc toutes les variations de couleurs que l'on peut trouver dans le fer, on les retrouve dans l'église de Chevreuse.
Oui, oui. Alors, du coup, pour continuer sur cette église, on va parler un petit peu des vitraux. Parce qu'il y a de magnifiques vitraux qui sont classés, je crois.
Trois vitraux seulement. Classés. Il y a une grande verrière, la grande verrière centrale qui est au bout de la nef. Mm-hmm. C'est une verrière qui est du 16e et qui a la particularité d'avoir un blason, un magnifique blason avec un chapeau de cardinal.
Aha.
Alors, on se dit, il n'y a jamais eu de cardinal à Chevreuse. Eh bien, si. Ah. Le cardinal de Lorraine, qui était issu de la famille de Guise, qui était seigneur de la châtellenie de Chevreuse, entre autres, et qui résidait à Dampierre. Et donc, les armoiries qui se trouvent dans l'église de Chevreuse, que peu de gens savent, ce sont les armoiries du cardinal de Lorraine, donc le blason de la Lorraine.
D'accord.
Bon, elle a des couleurs magnifiques, c'est une crucifixion, elle est très grande. Il y a des couleurs qui sont restées extrêmement vives, aussi vives qu'à Chartres. Mm-hmm. Entre autres, j'ai dans la tête le bleu du manteau de la Vierge et le rouge de Marie-Madeleine. Très beau vitrail. Sur la droite, on a un personnage, lorsqu'on est face à la grande verrière, sur la droite, on a une représentation de la vie de la Vierge. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que en bas à droite de ce grand vitrail, on voit un personnage qui a un manteau marron et deux petits enfants qui sont à genoux derrière lui. Parce que lorsque les donateurs finançaient un don à la paroisse ou à une église, ils adoraient se faire représenter en prière. Et donc, lui, on a pu l'identifier, il s'appelait Maître Odiger, et il était lieutenant du bailliage de Chevreuse.
D'accord.
Alors, par son costume, même si on ne connaît pas trop le personnage, par son costume, vous allez tout de suite le dater, c'est l'époque Henri IV, avec son petit col en dentelle, son petit manteau et tout, c'est très bien. Et par contre, de l'autre côté, donc le pendant de l'autre verrière qui est classée, les trois, je répète qu'il n'y en a que trois qui sont classés, c'est Saint-Martin, le patron de Chevreuse. Saint-Martin de Tours. Je vais vous raconter une petite anecdote. On connaît tous l'histoire du manteau de Saint-Martin.
De la cape, oui.
Mais quelque chose de beaucoup plus drôle. Au Moyen-Âge, on était très fervent des reliques. Moi, mon saint, il fait plus de miracles que ton saint.
Tout à fait.
Et toi, il se battait. On allait voler les reliques du voisin.
Oui.
Et puis, voilà. Et il y a une chronique qui raconte qu'un jour, on a amené un paralytique.
Oui.
Et qu'on lui a mis d'un côté des reliques de Saint-Martin et de l'autre côté des reliques de Saint-Germain. Saint-Germain d'Auxerre.
Ah oui.
Et je vous donne en mille, la chronique dit que le paralytique est devenu hémiplégique. Il a guéri que d'un côté. Alors moi, j'aime bien rajouter...
Lequel côté?
Saint-Martin, alors, évidemment.
Bien sûr.
Et alors, moi je rajoute, ils n'ont même pas eu l'idée de le retourner.
Alors
ça, c'est le côté très joli des chroniques. Mais autour des reliques, il y aurait une émission à faire sur les trafics des reliques en Occident. C'est
extraordinaire.
Ça, c'est
extraordinaire. Oui. La mienne en fait plus que toi.
Ah, mais c'était ça.
C'est ça. Ouais.
Alors,
on continue justement sur la troisième. Le troisième vitrail.
Alors, j'ai dit, il y a la vie de la Vierge.
Oui.
La grande verrière, celle qui représente avec les armes du cardinal Lorraine, et celle de Saint-Martin.
Ah, pardon, autant pour moi. Ok.
Pardon.
Pas de souci. Ensuite, est-ce qu'il y a des personnages qui sont venus, des personnages d'importance, qui sont venus à Chevreuse et dans cette église de Chevreuse, on sait ou pas?
Pardon.
Je vous en prie.
Bien sûr. Bon, il y a trois personnages célèbres à Chevreuse. Il y a Jean Racine.
Ah, ça, tout le monde connaît, oui.
Oui. Il y a Marie de Rohan.
Oui.
La seconde duchesse de Chevreuse, qui était certainement une des plus belles femmes de son temps, une enquiquineuse, une pétroleuse, elle avait la cuisse très légère, mais elle avait du panache.
J'aime bien cette expression de cuisse légère.
Bah oui. Ouais. Bon, et puis il y a eu un vilain garçon qui s'appelait Fabre d'Églantine, que les gens connaissent surtout pour il pleut bergère.
Oui,
ça, c'est le côté
oui,
joli.
Oui.
Mais ça a été un bonhomme qui a cherché à s'enrichir, un grand personnage de la Révolution française, qui a voulu être maire de Chevreuse. Il n'a jamais été, contrairement à ce que vous disent certains livres d'histoire, simplement qu'il était toujours en quête d'argent, il s'infiltrait partout. Un drôle de personnage. Ça, on pourrait en parler, mais ça serait trop long.
Notre émission.
Oui.
Sur les personnages de la vallée de Chevreuse.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire avec ce coquin. Déjà, de la chanson, si on la chante, elle est un peu coquine, hein. Il pleut bergère, hein.
Ah, ben, je suis bien d'accord. Oui. Au départ, on voit une jolie, une petite marquise
oui,
et tout ça. Pas du tout,
non,
mais il y a plusieurs lectures.
Oui, c'est ça.
Oui.
Alors, en parlant de lecture, je vous propose, nous, de faire une petite pause. Et ensuite, on va parler de la lecture architecturale et historique. On va rentrer un peu plus en profondeur sur l'église Saint-Martin de Chevreuse. À tout de suite. Nous voilà de retour avec Michel Charron. Vous nous parliez donc de l'église Saint-Martin de Chevreuse. On a dit avant la petite coupure qu'on allait parler de la lecture architecturale vraiment de cette église, puisque elle n'est pas droite, hein. La nef part légèrement sur le côté.
Oui, elle est très inclinée même quand on rentre dedans.
Ça se voit vraiment quand on rentre dedans.
Absolument, oui, absolument. Bon, elle part de l'ancien cimetière pour aller vers le chevet. Elle tourne. Alors, au Moyen-Âge, on connaissait très bien la ligne droite, aussi bien que maintenant. Donc, simplement, on trouve dans quelques églises en Bretagne et en Lorraine.
En Lorraine, ça fait penser à la Verrière.
Des allées qui fléchissent d'un côté, qui symboliseraient l'attitude du Christ sur la croix, avec la tête légèrement penchée.
Là, quand on est au niveau du portail occidental,
oui,
elle tourne légèrement vers la droite.
Et dans
au niveau du portail occidental.
Ah oui, sur la droite, oui.
Voilà,
oui.
Elle penche un peu sur la droite. Est-ce que dans les représentations du Christ en croix, sa tête est sur le côté droit?
Ça dépend. Comment on regarde le Christ? Si on est devant lui ou si on est derrière? Il y a un grand Christ qui pend actuellement dans la nef de Chevreuse. Il y a un grand Christ
en
croix.
Donc on est devant lui, en fait.
Quand on est face à lui, il a bien la tête qui penche à droite.
Eh ben, donc, ça serait logique, alors, à ce moment-là, que l'église, ça représente le basculement de la tête du Christ, que tout aille vers la droite.
Oui.
Est-ce que ça se pourrait être une explication?
Je crois qu'il y a une histoire aussi dans les évangiles. Le Christ tourne sa tête du côté du bon larron.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a une histoire du bon larron ou le mauvais larron.
Oui, parce que...
Je ne sais plus trop dans quel sens, mais il y a quelque chose, une histoire autour de ça dans les évangiles.
Je suis confuse, j'ai complètement oublié le nom de la personne qui est crucifiée à côté de lui. C'est
Barabbas.
Barabbas. Eh ben, oui. Barabbas est représenté sur la gauche du Christ. Effectivement.
D'accord.
Barabbas, on le représente souvent.
Oui, Barabbas qui a été, c'est le mauvais larron.
Sur la crucifixion de gauche.
Alors ça, c'est très typique quand on rentre dans l'église de Chevreuse, on est frappé par justement cette inclinaison. Par contre, ce qu'il faut savoir, que c'est la partie la plus ancienne se trouve au centre de l'église. C'est pour ça qu'on ne voit pas de l'extérieur la forme en croix latine. On ne la voit pas. Bon, la partie centrale où il y a le clocher, c'est la partie la plus ancienne.
Alors, excusez-moi, pour bien comprendre, il y avait une église d'origine qui doit dater aux environs du XIe siècle, qui devait probablement être en forme de croix latine et qui a été agrandie par les siècles suivants. Et on a supprimé cette croix latine-là, on l'a englobée dans l'agrandissement.
En quelque sorte, parce qu'ils ont construit des collatéraux. Ils ont construit des collatéraux, ils l'ont agrandi parce que la ville se développait et tout. Et effectivement, ça a gommé cette croix traditionnelle que l'on voit encore dans beaucoup d'églises. Mais peu importe, sous le clocher, on voit bien à la croisée, l'allée et les deux côtés qui partent.
D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous pouvez nous dire sur l'architecture ou les personnages?
Elle est vraiment d'architecture transition roman gothique, ça c'est sûr. Bon, les collatéraux, eux, on est dans le néo-gothique quasiment. On est...
Donc 19e néo-gothique.
Oui, non mais parce qu'ils ont été retravaillés.
D'accord.
C'était retravaillé. Hein. Tout est composite. C'est une église qui est dite composite. C'est-à-dire que tous les styles se mélangent, mais il n'empêche qu'elle est très harmonieuse. Elle est restée très armoisée et depuis sa restauration dans les années 60, elle a perdu tous ses stucs et elle est redevenue, ce que je vous disais tout à l'heure, elle est redevenue en pierre meulière, ce qui lui donne ses belles couleurs. Bon, elle est très élégante, elle est très élevée. La partie, l'entrée de la nef, les plafonds sont encore bas.
On est très bas. L'église.
Et brutalement, quand on passe le clocher, on commence à avoir une hauteur. Là, on commence...
La hauteur,
les architectes commencent à se lancer, ça
la
monte les voûtes.
Oui.
Voilà. Donc, et ça, c'est très frappant. Il y a un très beau ciel peint en bleu, bleu d'origine.
Oui, on parlait de polychromie tout à
l'heure. Avec des étoiles d'or. Et c'est vrai, le ciel au-dessus du chevet de l'église est très beau à Chevreuil. Alors, je me souviens plus de votre question.
Non, c'était pas de question particulière, c'était vraiment approfondir l'architecture, justement, l'agrandissement et l'évolution de cette église, c'est parfait.
Alors,
est-ce qu'il y a des petites chapelles dedans?
Oui, il y en avait.
Il y en avait.
Il y en a plus parce que c'est passé de mode.
D'accord, c'est passé de mode quand?
Au 19e, fin du 19e.
Donc quoi, on a supprimé les chapelles?
Oh, les chapelles, parce que pour restauration, parce que c'est passé de mode.
D'accord.
Il y a un élément qui est très important. Mais ça, c'est de l'extérieur. Son clocher n'est pas d'origine.
Ah.
Parce que toujours au 19e siècle. Le 19e siècle a sauvé beaucoup de bâtiments, mais a fait beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que milieu du 19e siècle, chaque curé voulait avoir un clocher qui était plus haut que son voisin. Ça va donner des horreurs. Je pense toujours à Rambouillet. Le clocher de Rambouillet... qui est une horreur absolue. Hein.
Attention, dites pas ça aux Rambolitains, ils y tiennent alors Saint-Lupin.
Moi je dis, non mais, c'est-à-dire que la mode était venue, parce qu'il y a des modes aussi dans la construction,
ouais, c'est sûr.
La mode était venue pour avoir des clochers extrêmement pointus, très hauts, alors que Chevreuse, le clocher d'origine, c'était presque un clocher en forme de campanile, beaucoup plus écrasé, beaucoup plus rassé, qui allait mieux avec l'esthétique.
Oui.
C'est la seule grosse critique que je fais sur cette église, et je me suis dit, ils se sont déchaînés. Vous voulez avoir un clocher, vous voulez un clocher.
Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que les guerres, notamment la Seconde Guerre mondiale avec les bombardements, ont fait pas mal de dégâts? Est-ce qu'il y a eu des dégâts à Saint-Forget et à Saint-Non,
ni l'une ni l'autre. L'une ni l'autre.
Et est-ce qu'on a des reliques?
Ah, alors c'est... Oui.
Oui, on en a. Ouais.
Une église sans reliques, c'est pas possible. Hein. Alors, je sais que moi, on a retrouvé dans les archives de Chevreuil, alors les authentifier, ça, je me hasarderai pas. Mais il y a... On a un morceau de l'épine du Christ, un morceau de la croix,
couronne d'épines, oui.
Et puis forcément un petit morceau de Saint-Martin. Hein.
Un petit bout. C'est quel bout de Saint-Martin qu'on a?
Ah ça.
Un doigt, une phalange.
Alors je ne suis pas, je le dis avec un petit peu d'humour ou de causticité, c'est que les reliques, les gens se raccrochaient.
Oui,
mais c'est très
énormément.
Beau. C'est la foi populaire. Les gens se raccrochaient. C'est comme tout à l'heure, je parlais des sources miraculeuses. Mmh. Mais on en trouve dans la région des sources miraculeuses. Ça guérissait toutes les maladies, hein. Mmh. Bon. Et les reliques, ben, les gens, ils se raccrochaient à ça. Et je pense, et je le dis avec beaucoup de respect, que ça avait certainement un effet placebo. Mmh. Les gens mettaient leur foi là-dedans et, Peu importe. Mais chaque église se devait d'avoir des... Alors pour une question, ça vous le savez sans doute, bassement matériel, des reliques dans une paroisse ou dans une église, c'était l'assurance d'avoir pèlerins.
Bien sûr.
Et puis voilà, bon, bien sûr. Classique. Hein.
D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, monsieur Charron. Je trouve ça vraiment... c'est extraordinaire. Je ne connaissais pas justement les églises de Saint-Forget. Et de Saint
Mais il faut
de,
venir,
de
il faut,
Mais faut venir.
Venir.
Mais je vais y aller parce que c'est magnifique.
Il faut vous imprégner d'un lieu. Il y a des odeurs, contrairement à ce qu'on pense. Dans une église, il y a des odeurs. Alors c'est des mélanges de tas de choses. Moi, je suis très sensible aux odeurs. Dans les églises, vous avez un mélange de l'eau, de l'encens. Il y a des senteurs dans les églises et l'église de Chevreuil a une belle senteur.
Et ben voilà, c'est sur cette belle note qu'on va se quitter. J'invite nos visiteurs à aller faire un tour dans ces églises pour leur histoire, pour leur architecture, pas forcément pour leurs reliques. Hein.
Et puis, s'ils veulent s'adresser à l'office de tourisme de Chevreuil, ils me le feront savoir.
Oui.
Et moi, si je suis disponible, je fais toujours un plaisir de guider. J'en reçois de toute la France.
Ah, génial.
Et si je suis disponible, je le fais de bon cœur.
D'accord. Donc, on se rappelle que vous faites partie de l'association La Mémoire de Chevreuse et notamment, vous occupez des recherches historique.
Voilà.
Merci, monsieur Charron. À très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.